L'inflammation, concrètement, c'est quoi ?
La santé, c'est des équilibres. Et en fait, l'inflammation vient casser un équilibre important, qui est l'équilibre oxydant-antioxydant.
Mais si cette inflammation perdure dans le temps, d'aigu, elle devient chronique, il va y avoir une répercussion sur notre santé.
Pour moi, si on devait travailler sur un point sur la santé, c'est d'abord commencer par diminuer son niveau d'inflammation.
Toi, t'en fais, Wilfried ?
Pas du tout.
Toi, il y a plein de choses en fait dans le monde moderne qui font que globalement, on est tous dans un environnement plutôt pro-inflammatoire.
Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Naturelle qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique.
On est déjà à l'épisode 28 du podcast Healthwise, vous nous suivez depuis le début peut-être, et vous avez peut-être entendu du coup, à plusieurs reprises, parler du stress oxydatif et de l'inflammation, que ce soit pour aborder des problématiques de santé, comprendre des mécanismes derrière certains actifs clés par exemple, ou décrypter des grandes tendances en nutrition, ces deux notions reviennent souvent. Et pourtant, malgré le fait d'être là à chaque épisode, c'est encore un peu flou pour moi, et on entend beaucoup parler de l'alimentation anti-inflammatoire, on en a même fait quelques épisodes. C'est devenu presque un réflexe pour une solution où on ne sait pas forcément la cause, où on la connaît moins bien en tout cas. L'inflammation, concrètement, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps ? Des tissus, des organes ? Est-ce que c'est un mécanisme global ? On adopte du coup la réponse sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Même chose pour le stress oxydatif. Personnellement, c'est un sujet que j'ai découvert en m'intéressant aux antioxydants de chez Sun Natural. Mais là encore, ça reste encore flou pour beaucoup d'entre nous. Les radicaux libres, c'est quoi exactement ? Pourquoi on associe souvent le stress oxydatif au vieillissement comme si c'était quelque chose d'uniquement négatif ? Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un vrai point ensemble, comprendre ces mécanismes, démystifier et surtout voir ce que ça implique concrètement pour notre santé au quotidien. Et pour ça, j'ai la chance d'avoir deux invités avec moi. Bonjour Wilfried Launay.
Bonjour.
Bonjour Émilie Desmouly.
Bonjour Noémie.
Je suis ravie de vous avoir tous les deux. Je pense qu'on va, bien s'amuser là avec des sujets qui sont assez, assez forts. Où on va pouvoir aller vraiment dans le détail. Émilie, je voudrais te présenter d'abord. Tu es diététicienne, nutritionniste, micronutritionniste, professeure de yoga vinyasa, praticienne en drainage lymphatique et accessoirement autrice de deux ouvrages. Alors, j'ai sorti les livres pour toi. Le premier, c'est mon cahier de compléments alimentaires et le deuxième, c'est ma bible de l'alimentation spéciale sportive. En tout cas, c'était des livres que j'avais apprécié feuilleter déjà avant de venir. Et j'ai aussi un autre auteur avec moi, Wilfried. Tu es donc auteur, conférencier, coach. Tu as notamment ce guide complet de l'alimentation anti-inflammatoire. On te connaît sous le nom de BeMove sur YouTube et aussi sur Instagram où tu parles de nutrition au sens large. Il y a vraiment de quoi faire en tout cas pour aller chercher des informations là-dedans. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, si vous suivez un petit peu aussi les épisodes chez nous, vous savez que le dimanche pour nous c'est important, en tout cas chez Sunday. Et du coup, je vous pose la première question aussi pour apprendre à vous connaître. Qu'est-ce qui vous fait plaisir le dimanche ?
Le dimanche, c'est de prendre mon temps. Prendre mon temps, de me laisser aller au temps, justement, de faire ce que je souhaite selon mon énergie du jour aussi. Ça peut être du sport, une marche en forêt, prendre du temps avec mes enfants, cuisiner, aller au marché. Voilà, ce que je souhaite, c'est vraiment mes dimanches, c'est pas de rendez-vous. Voilà, sans rendez-vous.
On regarde pas la montre.
C'est ça, tout à fait.
Et toi, Wilfried ?
Alors moi, ça dépend. En gros, c'est soit je vais aller prendre un café au soleil, parce que j'habite dans le sud, donc j'ai la chance d'avoir beaucoup de soleil. Donc soit un petit café au soleil sur une belle terrasse, ou alors une séance de sport avec mes amis. Souvent, je fais du crossfit ou de l'aerox, et voilà, souvent le dimanche matin, ça va être séance de sport entre amis. Ouais.
Petit rendez-vous, du coup, pour toi.
Exactement.
On va y aller doucement, là aussi, parce que c'est le matin, on a une autre café, c'est bon. Pour aller dans le sujet, que ce soit pour la peau, pour la fatigue, les hormones, le vieillissement, l'inflammation et le stress oxydatif, ça revient souvent dans la bouche des experts que j'interroge ici dans nos studios. Pourquoi ça touche autant de domaines et pourquoi les deux sont liés, à ton avis, Wilfried ?
Alors, l'inflammation chronique, aujourd'hui, c'est un des principaux problèmes de santé. on se rend compte que beaucoup de personnes ont de l'inflammation. On va en parler pendant ce podcast. Les causes sont multiples et variées. Ça vient de l'alimentation, bien sûr. Ça vient de la sédentarité. Ça vient du stress. Ça vient de l'environnement. Et en fait, ce stress global, on va dire, active beaucoup de choses négatives dans le corps. Et ça déséquilibre aussi beaucoup de choses. La santé, c'est déséquilibre. Et en fait, l'inflammation vient casser un équilibre important qui est l'équilibre oxydant-antioxydant. Je pense qu'on en reparlera. En fait, c'est incroyable le nombre de conséquences que ça a sur la santé, aussi bien au niveau de la peau, au niveau du système cardiovasculaire, au niveau même de la santé cérébrale, au niveau de plein de choses. Et on se rend compte que si aujourd'hui, en fait, on diminue l'inflammation, eh bien, en fait, il y a énormément de pathologies qui ont tendance à disparaître. Mmh. Beaucoup de gens, en fait, voient des avantages sur leur niveau d'énergie, sur la qualité de leur peau, sur la qualité du sommeil, sur énormément de choses, en fait. Donc, pour moi, si on devait travailler sur un point sur la santé, c'est d'abord commencer par diminuer son niveau d'inflammation. Et ensuite, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place progressivement et on rentre dans un cercle vertueux. En fait, souvent, l'inflammation, c'est un cercle vicieux. Mmh. Et en fait, là, on va se mettre dans un cercle vertueux. Mais je pense qu'on va en reparler pendant ce podcast.
Oui, c'est vrai que je ne sais pas ce que tu en penses, Émilie. On dirait que c'est quelque chose qui est vraiment mauvais, qui est un ennemi, alors que pourtant c'est un mécanisme qui est normal.
Physiologiquement normal, oui.
Oui, qui est peut-être quelque chose qui vient justement parce qu'on a des habitudes qui sont...
Parce qu'on a atteint un seuil, en fait. Et c'est vrai que l'inflammation, c'est un mécanisme de défense et de réparation. Mais si cette inflammation perdure dans le temps, d'aiguë, elle devient chronique, il va y avoir une répercussion en ce sens sur notre santé. Et c'est en ça où, en plus, c'est silencieux. Ce sont des mécanismes qui sont silencieux, qui chuchotent et qui vont grignoter nos cellules, nos mitochondries. Et en ce sens, il va falloir, par le biais de notre hygiène de vie, on en reparlera, vraiment éteindre cette inflammation, enfin éteindre en sachant que le corps est quand même une belle orfèvrerie, hein, il sait vraiment se réparer. Mais c'est un mécanisme physiologiquement normal qui devient vraiment délétère si on est tout le temps dans cette course contre l'inflammation, si elle devient chronique.
Oui, donc il faut vraiment y penser quand même pour éviter que ça perdure dans le temps. Mais c'est dur de savoir quand vous dites là, c'est silencieux, on ne le sait pas forcément. On a mentionné là directement dans les premiers mots le mode de vie, l'équilibre. Qu'est-ce qui impacte en fait l'inflammation et le stress oxydatif dans nos modes de vie ? Est-ce que tu peux déjà nous donner les liens que tu voulais
Alors,
mentionner ?
Pour moi, donc, la santé, c'est quatre piliers. Principalement, c'est l'alimentation, l'activité physique, le sommeil et le mental. Et en fait, chacun de ces piliers va avoir, de sa façon, un impact sur l'inflammation. Si on part sur l'alimentation de base, si tu prends l'alimentation dans la nature, elle est globalement anti-inflammatoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle d'alimentation anti-inflammatoire, mais l'alimentation est de base anti-inflammatoire. Il n'y a pas une alimentation spécifique, en fait. C'est l'alimentation moderne qui est plutôt pro-inflammatoire. Donc dès qu'on va aller sur des aliments plutôt très transformés, riches en mauvaises graisses, notamment les graisses hydrogénées, les graisses issues des plantes notamment, on va avoir en fait un bestiaire de produits qui sont mauvais pour la santé, qui vont augmenter l'inflammation. Donc un exemple tout bête, dans l'alimentation, tu as le ratio oméga-3, oméga-6. Et de base, dans la nature, ce ratio il est plutôt idéal. En fait. Et aujourd'hui, l'homme a déréglé ce ratio, ce qui fait qu'on consomme trop d'oméga-6 par rapport aux oméga-3. Les oméga-6 sont plutôt précurseurs de molécules pro-inflammatoires, oméga-3 plutôt anti-inflammatoires. Donc quand tu as un déséquilibre à ce niveau-là, eh bien, en fait, tu vas déjà passer ton corps dans un mode pro-inflammatoire. Tu vas aussi avoir beaucoup de... tu sais, dans l'alimentation moderne, tu as des conservateurs, exhausteurs de goût, etc. Et tout ça, en fait, ça a tendance aussi à forte dose à augmenter le niveau inflammatoire. Tu as les métaux lourds, etc. etc. Tu as la sédentarité aussi. La sédentarité augmente l'inflammation. Un mauvais sommeil aussi, quand tu as un sommeil qui est totalement déréglé, quand tu n'arrives pas à mettre en place un système qui se répare, parce que la nuit, c'est là que ton corps se répare, qui va contrer l'inflammation. Donc, si tu as un sommeil qui est délétère, et crois-moi qu'il y a beaucoup de gens qui ont un mauvais sommeil, l'inflammation va augmenter. Et puis, aussi, on parlait du mental. Donc, le mental, si jamais tu as le moral dans les chaussettes, si tu es stressé chroniquement, si tu as une tendance à voir les choses négativement, eh bien, là aussi, pareil, on démontre que globalement, ton niveau inflammatoire, il augmente. Donc, toi, il y a plein de choses, en fait, dans le monde moderne qui font que globalement, on est tous dans un environnement plutôt pro-inflammatoire. Et donc, il faut agir activement au quotidien sur plein de choses, donc sur les quatre piliers de la santé, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil et le mental, pour réduire ce niveau inflammatoire.
Et retrouver l'équilibre, du coup.
Exactement.
Tu as hoché beaucoup la tête, et Émilie, est-ce que tu es vraiment d'accord,
d'accord
avec ce que...
Oui, bien sûr, ça reste... Bon, c'est dans notre sphère aussi professionnelle, et c'est de bon sens, en fait. C'est de revenir à avant le monde moderne, comment c'était, et on faisait les choses simples, on apprenait... Il faut plutôt apprendre à décuisiner aujourd'hui que plutôt à cuisiner. Faut apprendre à revenir au brut, à l'authenticité, et c'est en ça où bien sûr que je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je rajouterais juste les liens sociaux, s'entourer de belles personnes et ne pas faire pour faire, mais faire pour être, et se recentrer sur soi, et ne pas dire que penser à soi, c'est être égoïste, c'est vraiment justement ouvrir les liens aux autres, et encore une fois s'entourer de ceux avec qui on est aligné, et pas se forcer, en fait. Ça, c'est important, le lien social. C'est le miel aussi de la longévité.
Oui, si on se force, du coup, ça augmente peut-être le stress aussi.
Oui.
T'as mentionné justement le mental, et souvent on parle du stress comme un fléau. Là, on le cite vraiment beaucoup de fois dans plein d'épisodes, à plein de niveaux. Mmh. À quel point, pour toi, Émilie, le stress mental, il est lié à l'inflammation et au stress oxydatif?
Alors, c'est vrai que, tu vois, on parlait des liens sociaux, donc il peut y avoir aussi le fait de se forcer, de s'adapter aux autres. C'est vrai qu'il y a des stress psychologiques, mais le corps ne fait pas la différence entre le stress psychologique et le stress physique. Mmh. Et il y a le même axe qui est mis à rude épreuve, c'est l'axe hypothalamo hypophyseur surrénalien, et qui va activer donc le taux de cortisol, il va activer aussi l'adrénaline. Donc à petite dose, c'est bien, à grande dose, l'équilibre là n'y est plus. Et c'est en ça où ça va avoir un impact sur nos mitochondries, sur notre système immunitaire également, et puis bien sûr le système cérébral, tout un cheminement. Wilfried parlait du cercle vertueux et vicieux. Bon, bah là c'est un cercle vicieux où c'est vrai que voilà, mitochondries, stress oxydatif, enfin radicaux libres, stress oxydatif, système immunitaire, inflammation, et tout ça mis à rude épreuve fait qu'encore une fois, que ça soit une réunion, on a peur d'une réunion, on s'en inquiète, donc un stress psychologique contre un stress physique, le sport, le corps, lui, c'est un stress. Donc le cortisol, il n'y a pas un... Et on met en avant le système nerveux, donc sympathique et parasympathique. Et aujourd'hui, dans le monde moderne, on est surtout dans ce système sympathique, on est tout le temps dans cette escalade, tout le temps dans, un peu comme un hamster dans sa roue. Et il faut aller, c'est pas du luxe, justement, wellness, comme je dis souvent, de respirer profondément, d'aller marcher, que ça soit en forêt, c'est mieux, mais parfois, voilà, même si là où on est dans le cadre où on est, d'aller marcher, de réaliser du yoga, du pilates, des exercices doux pour limiter ce système sympathique et aller vers le parasympathique, donc ça s'agir. Mais voilà, ce côté psychologique et physique, c'est important aussi donc d'avoir cette homéostasie entre les deux, ce stress.
Juste un petit point pour être sûr que je comprenne bien.
Oui.
Du coup, si le stress, il est reconnu aussi comme stress physique, mm-hmm. Il fait des radicaux libres, mm-hmm. et ensuite, c'est ça qui fait l'oxydation.
Le stress oxydatif, oui, tout à fait. C'est en fait, c'est un cheminement, c'est un mécanisme, les radicaux libres. En fait, à partir du moment où on a une énergie cellulaire, on apporte de l'énergie à nos cellules, il y a des radicaux libres qui sont générés. Mais si trop de radicaux libres il y a, alors de ce fait, il y a stress oxydatif. C'est en ce sens. Tu es d'accord sur le mécanisme physiologique?
J'aime bien donner un exemple. En fait, c'est que les radicaux libres, en fait, on ne peut pas les empêcher parce qu'en fait, c'est un résidu de la respiration, comme les pots d'échappement d'une voiture. En fait, on ne peut pas les empêcher. Par contre, effectivement, comme tu disais, Émilie, en quantité physiologique, c'est tout à fait normal et même sain, parce que le système immunitaire, d'ailleurs, utilise des radicaux libres pour se défendre. Mm-hmm. À la base, les radicaux libres, ça sert pour détruire les virus, les bactéries, etc. Mais le problème, c'est que quand il y en a trop, le corps, en fait, va pas pouvoir supporter cet excès. Parce qu'en fait, à la base, le corps a un système pour diminuer la quantité d'oxydants, de radicaux libres, qu'on appelle les antioxydants. En fait, j'aime bien donner une image. En fait, c'est un peu, c'est comme quand on envoie un missile vers un avion de chasse, il jette des leurres derrière, c'est pour empêcher le missile d'arriver sur lui. C'est un peu pareil, en fait. Le corps, il a des sortes de leurres, en fait, pour pas que les petits missiles, donc qui sont les radicaux libres, aillent sur les cellules et abîmer effectivement les cellules. Donc les antioxydants, c'est extrêmement important. Le corps en a beaucoup, ça s'appelle les antioxydants endogènes. Mais en fait, cette quantité, elle est limitée. Et en fait, quand la quantité de radicaux libres dépasse les réserves d'antioxydants, c'est là qu'on parle de stress oxydatif, parce que l'équilibre n'est plus présent. Et c'est là justement où il peut être intéressant d'apporter ces antioxydants par voie extérieure, les antioxydants exogènes. Et les principaux, bah, c'est l'alimentation. Quand tu vas consommer des fruits, des légumes, etc., bah, en fait, tu vas fournir à ton corps des antioxydants qui vont venir en fait aider ton corps à compenser son manque naturel d'antioxydants endogènes. Et ça, c'est super important parce que aujourd'hui, justement, on est envahi en fait de choses qui activent nos réserves antioxydantes. Et donc, il faut aider le corps absolument. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de consommer des assiettes extrêmement colorées. En fait, c'est simple, hein, la nature est plutôt bien faite. Plus tu as une assiette qui est colorée en termes de fruits et légumes, plus tu vas avoir une richesse d'antioxydants qui va être importante. Mmh. Donc, quand on dit en général, mets de la couleur dans ton assiette, c'est vrai. Ce cliché, il est totalement vrai. Mmh. Et voilà, les tomates, les poivrons, les carottes, les myrtilles. En fait, plus la couleur, elle est un petit peu écarlate, plus en général, tu vas avoir d'antioxydants qui vont t'aider à diminuer ce stress oxydatif.
Tu as parlé pas mal de déséquilibre déjà avec deux exemples que j'ai retenus déjà, les oméga-3, les oméga-6, les antioxydants, les radicaux libres. Mais tout ça, on le sait pas. Ça se passe dans notre corps, j'ai pas le filtre pour décoder un peu, pour savoir si c'est en déséquilibre. Est-ce qu'il y a quand même des conséquences qu'on peut remarquer dans la vie de tous les jours, se dire attention, là, il faut que je remette de la couleur, attention, là, il faut que je réapporte des oméga-3, par exemple.
Ouais, bah moi, j'aime bien dire, en fait, que souvent, le principal indice que ça va pas bien, en fait, dans ton corps, ça va être donc deux choses. Ça va être ta peau. Moi, j'aime bien dire, en fait, que souvent, la peau est le reflet de la santé. Donc, quand tu commences à avoir des petites taches rouges ou une peau qui n'est pas aussi belle que d'habitude, pour moi, c'est un signe qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ton corps. Et puis aussi ton niveau d'énergie. Si le matin, tu te lèves, tu n'es pas en forme, c'est qu'en général, alors, la fatigue chronique, il y a plein d'explications, clairement. Il n'y a pas une cause. Mais de façon assez sous-jacente, on remarque que l'inflammation, elle a tendance globalement à mettre cet état de fatigue. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que l'inflammation, à la base, c'est un effet secondaire du système immunitaire qui est un peu trop activé. En fait, l'inflammation sert à la base pour réparer ton corps. Quand tu as une inflammation parce que tu as une bactérie ou un virus, tu es malade, en fait, c'est l'inflammation qui va venir justement détruire ces éléments pathogènes, en fait. Donc, quand tu as une inflammation pour un problème de santé comme type petit rhume, etc., elle démarre et elle s'arrête. Mais toi, en général, tu vas avoir ce côté un peu fatigué. Quand tu es malade, tu as envie de rester dans ton lit, en fait. Parce que justement, ton corps, il se dit en mode, on va passer en mode réparation. Donc, en mode réparation, tu te calmes, en fait, et on va mettre toute l'énergie, en gros, pour te réparer. Sauf que quand l'inflammation, elle est constante, en fait, tu vas avoir cet état de fatigue qui va être relativement constant aussi. Toi, tu n'auras jamais ce pic qui va disparaître. C'est un peu en fait comme si tu n'avais jamais la possibilité de retrouver une bonne énergie. Même après une bonne nuit de sommeil, tu dis « Putain, je suis fatigué, ça va pas en fait. » Donc tu vois, ça, voilà. Pour moi, il y a plein de symptômes, mais basiquement, on pourrait dire niveau de fatigue et état de la peau.
Toi, tu as pas mal de consultations. Est-ce que tu as aussi des motifs que les gens amènent et au final, tu sais qu'il y a une inflammation et tu sais que...
Oui, beaucoup, comme disait Wilfried, il n'y en a pas un, et c'est la peau, les intestins, beaucoup, les troubles digestifs, également les troubles ostéo-articulaires, les troubles hormonaux, les maladies auto-immunes, ils viennent pour ça, ou parfois je les diagnostique aussi avec des bilans qui sont un petit peu plus poussés en médecine fonctionnelle, mais voilà, c'est en règle générale les migraines aussi, beaucoup, la baisse de concentration, de mémorisation, après, derrière, bien sûr, dans mes anamnèses, voir aussi à quel cycle, quelle transition de vie on est, si c'est des femmes, si plutôt en périménopause, ménopause, mais l'inflammation, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est le socle de notre vie moderne. Donc, on a aujourd'hui tous des symptômes, mais à moindre mesure, voir à quel degré. Et j'aime poser la question souvent à mes patients, comment vous vous sentez entre 0 et 10? Enfin, voilà, laisser... et eux, même, se posent la question, se dire, En fait, oui, en fait, je vais mal. En fait, je viens. Parfois, j'ai des patients qui viennent. Ils se disent, bah, je vous ai entendu ou j'ai lu vos livres. Je suis intéressée pour mieux vivre, etc. Mais tout va bien. Mais je veux faire un point. Et en final, avec l'anamnèse ou avec mes échelles, voilà, mes questions ouvertes, qui permet d'avoir aussi une écoute parce qu'elles se sentent écoutées et comprises, elles se disent, bah ouais, en final, en fait, j'ai appris à vivre avec des symptômes inflammatoires et je sais que derrière, on peut aussi mettre des actions correctives. Et il y a une prise de conscience. Mais en tout cas, il y a, voilà, troubles hormonaux, troubles digestifs aussi, la digestion, l'écosystème intestinal, c'est là où c'est 70% de notre système immunitaire qui prend source dans notre écosystème intestinal. Donc, il faut en être vigilant et l'inflammation aussi. Donc,
il faut avoir ce déclic, comprendre un peu ce qui se passe derrière, reconnaître que c'est plus du tout un pic, mais c'est chronique. Et en cherchant un petit peu sur le sujet, je me demandais s'il fallait être proactif. Tu l'as dit dès le départ. Et du coup, quelle stratégie pour limiter ces déséquilibres dans le temps, limiter les dégâts? J'ai listé quelque chose où ça pouvait être utile, en tout cas. Vous allez me dire, en tout cas, si c'est utile ou non. Je vais vous les lister et vous me dites ce que vous en pensez. Donc, la première, vu que tu avais déjà un livre sur l'alimentation anti-inflammatoire, je me suis dit, je la pose pour toi.
Donc, la question, c'est...
c'est utile ou pas?
Un peu, oui. Oui, bien sûr, comme je disais, du coup, c'est une des bases de ce qu'il faut mettre en place pour lutter contre l'inflammation. Et le gros avantage de l'alimentation, je dirais, c'est que c'est un des piliers les plus faciles à mettre en œuvre parce que, bah, déjà, il revient 3 fois par jour. Donc, t'as moyen de faire des choses concrètement. Et puis... tu vois, c'est concret de changer son alimentation. Quand on travaille sur le sommeil ou l'activité physique, il y a toujours une sorte de réticence, il y a ce côté un peu genre, c'est compliqué. L'alimentation, les gens sont beaucoup plus au fait, beaucoup plus enclins à changer d'alimentation. Non, moi, j'ai beaucoup plus de mal à travailler, par exemple, sur l'activité physique avec les gens que sur l'alimentation. Il y a beaucoup plus de facilité, en fait, parce que les gens savent, au fond d'eux-mêmes, que manger, bien manger, c'est important pour la santé. Donc oui, bien sûr, une bonne alimentation anti-inflammatoire, c'est une des bases fondamentales de la santé. Ouais.
C'est quoi le plus simple? Les petites choses le plus simple à inclure ou à penser pour se dire, c'est bon, je prends des habitudes anti-inflammatoires.
Ok, je dirais le plus simple. Comme tu as dit, Émilie, effectivement, peut-être travailler sur sa façon de faire à manger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, toi, qui manquent de temps et qui sacrifient justement des choses dans leur quotidien, et la bouffe est souvent sacrifiée. Genre, j'ai pas le temps, donc ça va être une pizza surgelée, ça va être un truc tout fait, tu vois, juste à mettre au micro-ondes, hop, et en 3 minutes, tu te mets dans ton canapé, c'est bon. Et ça, c'est extrêmement délétère, parce qu'en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, dans tout ce qui est des aliments industriels, tu as une flopée de choses extrêmement inflammatoires. Donc, quand ça arrive à l'occasion, je veux dire, c'est OK, parce que... personne n'est parfait, tout le monde a besoin des fois d'avoir des petits moments où on n'a pas besoin de cuisiner. Mais par contre, la plupart du temps, il faut quand même mettre un peu la main à la pâte pour savoir ce qu'on met dans son assiette. Donc ça va être de choisir de façon intelligente son alimentation avec, comme j'expliquais, bah, beaucoup d'aliments végétaux pour avoir ce côté un peu coloré. Et puis limiter fortement les aliments ultra transformés. Donc ça, c'est la base pour moi, c'est reprendre la main sur son alimentation. C'est moi qui décide ce que je mets dans mon assiette et pas un industriel de je sais pas où est-ce qu'il est, avec qui a mis des ingrédients que je sais pas ce qu'il y a dedans, je comprends pas les EXXX machin. Ça, c'est déjà pour moi quelque chose qui est essentiel. Et puis aussi, je dirais, sur l'alimentation, travailler sur le petit déjeuner. Le petit déjeuner, notamment à la française. Alors, ce matin, j'ai pris un petit déjeuner à la française pour me faire plaisir, justement, dans la règle des 80-20, peut-être qu'on abordera. Mais sinon, dans la plupart des cas, le petit déjeuner à la française, il est relativement catastrophique. Il est plutôt pro-inflammatoire. Donc, si jamais il y avait un truc à changer, pour moi, ce serait le petit-déj. Essayer de travailler sur un petit-déj plus protéiné, moins glucidique, moins riche en céréales, par exemple, aussi. Voilà, ça, c'est des points qui sont pour moi essentiels.
Pour les plats préparés, par exemple, moi, je me suis découvert une passion congélo. C'est-à-dire de cuisiner et de mettre au congélo et de me dire c'est si parfait, je veux pas.
Là, t'as le meilleur des deux mondes, parce que ça. Non seulement tu fais à manger toi-même, mais en plus tu peux avoir ce côté genre si j'en ai besoin, c'est disponible rapidement.
Exact.
Sans me prendre la tête, parce que des fois ça arrive à tout le monde de rentrer tard un soir et de pas avoir le courage de faire à manger.
Ouais,
et quand t'as ce côté genre c'est déjà fait et c'est moi qui l'ai fait, c'est génial.
Toi aussi, t'as des petites habitudes anti-inflammatoires Dans l'alimentation
Dans l'alimentation, oui. Enfin, c'est l'alimentation, mais c'est l'hydratation aussi. Parce qu'on on en reparlera aussi tout à l'heure. Mais l'hydratation, l'alimentation aussi, je veille beaucoup à la cuisson des aliments, toujours en rapport avec les troubles digestifs ou pas. Plutôt manger cru, cuit ou un peu des deux. Toujours cette homéostasie, cet équilibre à trouver entre un peu de cru, un peu de cuit. Plus il y a de couleurs, en effet, mieux on se porte. Plus c'est bio, mieux c'est. Je sais qu'après, c'est une question de finances, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la qualité de nos sols, la qualité de notre air fait que... voilà, on en reparlera aussi peut-être tout à l'heure, mais la qualité nutritionnelle, micronutritionnelle de nos légumes, de nos fruits et légumes, n'est plus ce qu'elle était avant. Et donc, comme on a quand même besoin de ces réactions biochimiques de nos aliments à travers nos cellules, donc en lui apportant des vitamines, des minéraux, des acides gras, des antioxydants, il faut aussi des mets qui soient de qualité. Et les mets de qualité, plutôt se diriger vers des produits de la terre, certes, mais aussi bio et sans intrants chimiques, ça serait quand même mieux aussi.
Tu as parlé tout de suite des vitamines, des minéraux, du fait que les sols, parfois, ne donnent pas assez de vitamines et minéraux dans les aliments. Mmh. Et du coup, la prochaine qui était sur ma liste de stratégies anti-inflammatoires, lapsus, c'est la micronutrition. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la micronutrition pour justement pouvoir nous aider à rétablir cet équilibre-là?
En sachant qu'on parle souvent, le terme, c'est fou parce qu'à chaque fois, une micronutrition, comme si c'était des petits nutriments, mais oui, c'est des petits nutriments, mais qui ont tellement un effet. Leur plus gros effet, c'est eux, en fait, sur nos cellules, sur le vieillissement aussi cellulaire et sur l'inflammation, donc le stress que l'on impacte sur nos cellules. Mais la micronutrition, aujourd'hui, c'est... vraiment être vigilant à notre apport en acides gras, en vitamines, en minéraux, en antioxydants, mais également, donc ça, c'est pas 80-20, c'est pas du 50-50, mais au 21e siècle, la prise de compléments alimentaires pour aider l'organisme à s'adapter au monde dans lequel on évolue, oui, il faut en fait, si on veut vivre mieux, vivre bien et vivre moins inflammé et moins être grignoté et encore une fois aider son corps à retrouver sa vitalité, à s'adapter, c'est l'aider à travers de la micronut et les compléments alimentaires en plus, bien sûr. Attention, c'est un soutien, mais ce n'est pas une fondation. La fondation, Wilfried en a parlé tout à l'heure, l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress, le mouvement. Après, il y a des outils complémentaires qui peuvent aider. Et la micronutrition est la bienvenue, notamment quand on parle d'acides gras, les acides gras essentiels, les oméga-3, ce rapport oméga-6, oméga-3. Aujourd'hui, pour moi, l'apport d'oméga-3, et je ne t'aurais pas dit ça il y a 6 ans ou il y a 5 ans, mais l'apport de complémentation en oméga-3 est pour moi importante, de qualité bien sûr, parce qu'attention, la micronutrition aussi, il faut qu'elle soit ciblée et personnalisée.
Bah, c'est donc, super dur du coup, quand c'est personnalisé, de savoir ce qu'on a vraiment besoin
bien sûr.
Et à partir de quand on commence, quand on arrête.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques petites clés pour qu'on puisse savoir qu'on peut commencer par exemple?
Oui, alors c'est vrai que je suis toujours aussi vigilante à ces questions-là, mais il y a des, comme on parle d'inflammation et de stress oxydatif, les oméga-3, est-ce que je mange 2-3 petits poissons gras par semaine? Non, j'aime pas, non, je suis végétarienne. Dans ces cas-là, les oméga-3, EPA, DHA, bien vérifier aussi la quantité de EPA, DHA, la vitamine D. Selon où est-ce que tu vis aussi, bon, c'est vrai que même si on vit au soleil, on peut être carencé, voir si, parce que même si on vit au soleil, on n'est pas spécialement au soleil tout le temps et dehors tout le temps, parce qu'on travaille, on vit beaucoup à l'intérieur, même si on est dans des pays chauds, on vit pas à l'extérieur continuellement. La vitamine D, les oméga 3, le magnésium, bisglycinate, le mieux, la base, et puis voilà, je pourrais aller vers le sélénium, le zinc et les antioxydants pour aider le corps, en plus d'une alimentation, comme je vous l'ai dit, les antioxydants comme, moi j'aime beaucoup la NAC, donc N-acétylcystéine, la astaxanthine, qui est de la famille des caroténoïdes, on en parlera aussi sans doute tout à l'heure, la vitamine C, la vitamine E, des vitamines antioxydantes. Mais voilà, pour faire un trio, allez, magnésium, vitamine D et oméga-3.
Je sais que, par exemple, pour la grossesse, On recommande aussi de l'oméga 3 pour les gens qui font beaucoup de sport, les antioxydants.
Tout à fait.
On en recommande.
Tout à fait, excuse-moi, je te coupe, mais dans ce sens où c'est quand on a des besoins plus élevés, en effet, il y a des populations qui ont des besoins plus élevés, notamment les sportifs, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, lorsqu'aussi on prend des traitements médicamenteux, les personnes qui prennent des statines, par exemple, ont des besoins plus élevés en oméga-3.
Q10 aussi.
Et le Q10, merci. Je l'ai oublié celui-là.
C'est notamment pour les statines.
Ouais, le Q10, enfin en plus je donne beaucoup de Q10 oméga 3, mais en effet pour les statines, mais et c'est un anti-inflammatoire, enfin c'est non, les oméga 3 c'est un anti-inflammatoire, mais le Q10, il agit dans les mitochondries pour produire de l'énergie. Et c'est vrai qu'avec le temps, on a moins de Q10, mais pour en revenir sur nos besoins exponentiels, mais le Q10 chez les sportifs, par exemple, très important aussi. Et pour les personnes qui ont une fatigabilité aussi chronique, une asthénie importante. Mais il y a des populations qui ont des besoins supérieurs. Quand on recherche aussi, on a des marqueurs, des bilans biologiques et qu'on voit des carences, des déficits en fer aussi, mais on ne donne pas du fer bisglycinate comme ça en se disant, tiens, je manque un peu de fer parce que je ne mange pas beaucoup de viande rouge. Il faut vraiment un bilan biologique derrière. Il faut être vraiment vigilant aussi à ça.
J'ai ramené quelques produits que vous m'aviez glissé à l'oreille. Alors là, je vois du matcha, par exemple. Le matcha, c'est du thé vert.
Ah oui, la catéchine, du thé vert notamment, très antioxydant.
Ouais. Et en plus, il y a toute la feuille complète aussi, donc c'est beaucoup plus
pur,
concentré,
oui,
ouais,
plus
même
concentré
que le thé vert en feuille simplement.
D'accord, oui.
J'ai ramené du resveratrol.
J'adore celui-là.
Tu connais bien ?
Je connais beaucoup. Ouais, enfin, j'en prends de temps en temps.
Généralement, on le connaît par les crèmes, parce qu'il y a beaucoup de crèmes cosmétiques aussi.
D'accord.
Qui en ont. Mais en micronutrition, pourquoi c'est intéressant ?
Tu sais ou pas ? Moi, je le sais.
Parce qu'à la base, ça vient du raisin. En fait, le resveratrol, c'est un très puissant antioxydant. Tu vois, le raisin, justement, c'est une couleur un peu écarlate, rouge, noir, etc. Et effectivement, bah, tu vois, dans le régime méditerranéen, on parle souvent du côté... prendre un verre de vin rouge, par exemple, pour le côté cardiovasculaire, bon, là-dessus, on peut discuter, mais en tout cas, une des causes profondes, c'est la présence de resveratrol dans les raisins, donc dans le vin rouge, en fait. Mmh. Donc, clairement, oui, c'est quelque chose qu'il faudrait plus consommer, ouais.
De quoi le
resveratrol.
Oui, le resveratrol en complément.
Pas
parce
le vin
faut
rouge.
Savoir, non. Après, il faut savoir que c'est quand même hyper... Enfin, voilà, au niveau des teneurs, il y a certains micronutritionnistes qui disent, bah, c'est contre notre organisme de consommer autant dans une gélule de resveratrol qu'on n'aurait pas en fait dans notre alimentation, mais c'est une belle aide de longévité vraiment. Il faut savoir que le resveratrol c'est donc un grand antioxydant, mais aussi c'est un mimétique du déficit calorique. Et ça c'est intéressant quand moi j'ai des patients qui sont en surcharge pondérale, en obésité, et c'est une belle aide le resveratrol s'il est bien pris encore une fois et personnalisé et ciblé.
Pourquoi c'est une belle aide du coup
Bah parce que ça, comme c'est un mimétique du déficit calorique dans leur changement de vie, mes patients en surcharge pondérale, en obésité, du coup c'est une belle aide en plus voilà, du changement encore une fois de leur mode de vie.
On a aussi ramené l'astaxanthine. Juste là.
J'adore l'astaxanthine aussi.
Vas-y, je te laisse en parler du coup.
Non mais...
vas-y.
Tu connais l'astaxanthine ?
Moins que toi, je pense, sur le coup.
C'est vrai que l'astaxanthine, c'est vraiment aussi un antioxydant super puissant. Il intervient dans le soutien, alors moi j'aime beaucoup dans le soutien notamment de la peau, du cerveau, mais aussi oculaire. Je fais pas mal de formations auprès des ophtalmos et ils connaissent pas l'astaxanthine pour leurs patients, donc comme ça ils recommandent de plus en plus, mais vraiment sur la santé oculaire, moi j'ai souvent, alors je parle un petit peu de moi, mais des chalazions, des infections au niveau oculaire, et ça m'aide beaucoup à miser. Et l'astaxanthine, encore une fois, c'est naturel, mais en complément, c'est super, quoi. Il ne faut pas hésiter. Après, attention, hein, ce n'est pas astaxanthine, resveratrol, acide alpha, le Q10 oméga 3. Mais voilà, tu connaissais ? Il y en a beaucoup aussi dans les algues, crevettes et saumons. Bon. Voilà, on réduit aussi la quantité de saumon parce que beaucoup de métaux lourds, mais si ça reste une ou deux fois par mois, pourquoi pas sur la consommation, parce que ce qui est toujours important, c'est de savoir, voilà, dans le raisin, resveratrol, astaxanthine, dans les algues, et puis, encore une fois, les produits de la mer, certains produits de la mer, donc autant les accompagner aussi via l'alimentation.
Il y a d'autres produits qui ont un peu la même couleur que l'astaxanthine, qui est bien rouge, du coup, des crevettes, etc. C'est le lycopène et le bêta-carotène. Donc, le lycopène, je sais que ça vient des tomates, mm-hmm. et le bêta-carotène, des carottes. Mm-hmm. Du coup, ces couleurs-là qu'on peut retrouver dans, dans l'assiette. Mais en micronutrition, je ne savais pas trop comment les utiliser. Je sais que bêta-carotène, on en a aussi dans les cosmétiques pour le bronzage. Mais le lycopène, je ne savais pas trop.
Après, alors là, le lycopène en micronutrition,
ouais.
Encore une fois, la micronutrition ne s'agit pas, c'est pas micronutrition, donc complément alimentaire. La micronutrition, on va la puiser aussi dans l'alimentation. Donc, le lycopène dans la tomate. Pour en revenir sur l'astaxanthine, elle fait partie de la famille des caroténoïdes. Donc, ça, faut le savoir aussi. Donc, on en trouve en complément alimentaire, mais aussi, donc, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, on peut la trouver dans l'alimentation. On peut tout trouver dans l'alimentation. Micronutriments, c'est vraiment l'étude des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des acides gras. Et là, on peut les trouver dans l'alimentation, pas que dans les compléments alimentaires. C'est important de faire
l'alimentation, c'est que c'est à dose physiologique, justement.
Voilà, merci.
Il faut se méfier des compléments alimentaires, notamment des compléments d'antioxydants. Dans certains cas, je suis totalement pour, etc. Après, il faut se méfier parce que néanmoins, le corps a besoin d'avoir un peu de stress quand même. Si on charge trop le corps d'antioxydants, on va trop l'aider, entre guillemets, et ça va enlever l'effet d'hormèse. L'effet d'hormèse, c'est en gros un stress ponctuel et bénéfique pour le corps. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc, par exemple, le jeûne intermittent, l'activité physique, c'est une forme de stress qui aide le corps. Et en fait, parfois, les gens, ils ont tendance à prendre trop d'antioxydants sous forme de compléments alimentaires. Et ils pensent bien faire, en envoyant plein d'antioxydants dans le corps, ça va directement détruire les radicaux libres, entre guillemets, et mon corps, du coup, il va être en meilleure santé. Non, ça peut faire l'effet totalement inverse. D'ailleurs, des études ont prouvé que des personnes qui avaient des cancers, par exemple, c'est des personnes qui avaient des cancers, donc il y avait une grosse charge de radicaux libres, en leur donnant, en fait, des antioxydants par des compléments alimentaires, et bien, en fait, ça augmentait rapidement le risque d'exagération, de développement du cancer, en fait, quoi. Donc, c'est pour ça que, comme disait Émilie, c'est toujours... voilà, faut faire attention avec les compléments alimentaires, notamment d'antioxydants, c'est sur mesure, on va dire, entre guillemets, et ne pas se dire, je vais prendre, tous les compléments d'antioxydants qui existent, parce que comme ça, je vais être en bonne santé. On peut faire un effet totalement inverse et catastrophique, en fait.
Ouais. Voilà. Du coup, comment on connaît la mesure ?
Par des consultations, enfin voilà, ça, il faut vraiment un échange avec un praticien, un professionnel qui a sa place dans ce domaine-là, avec l'expertise qu'il a. Ça peut être un médecin fonctionnel, un diététicien, nutritionniste avec une expertise en micronutrition. C'est vraiment important cet échange, et il peut y avoir donc à travers l'anamnèse déjà, on peut, et puis après surtout des bilans. Un bilan biologique qui peut s'avérer intéressant en ce sens, mais on ne donne pas automatiquement, encore une fois, des compléments et on n'en prend pas automatiquement.
En fait, un point qui est important en santé, c'est que la réponse universelle, c'est « ça dépend ». Les gens n'aiment pas ça parce qu'ils aiment bien voir le côté ils aiment bien le côté binaire, genre ça c'est bien, ça
c'est ça. Protocole universel, il y en a pas.
Ça n'existe pas en fait, parce que ça va dépendre de ton passif, de ton état de santé actuel, de tes objectifs de santé, de ta génétique, de tellement de paramètres en fait. Donc il faut prendre tous les paramètres, les mettre dans une sorte de petite cercle magique, et en fait on en sort. Voilà, il faut que tu prennes ça, mais ça effectivement c'est que quelqu'un qui s'y connaît, qui a pouvoir analyser les data et te dire voilà ce qu'il faut prendre. Mais il n'y a pas un truc universel, en fait.
C'est ça. Tout à fait. Tu donnais quand même oméga 3, vitamine D, magnésium en top 3.
Parce que ça, effectivement, on est quasiment tous carencés là-dessus. On est quasiment tous carencés.
Ouais. Par rapport aux oméga 3, on a peut-être un peu l'habitude de dire bon, bah, on consomme trop d'oméga 6, donc je vais donner directement des oméga 3. Est-ce que il faut quand même en apporter par l'alimentation, même si on doit se supplémenter?
Attention néanmoins, parce que effectivement, comme tu disais, Émilie, la meilleure source aujourd'hui d'oméga 3, ça reste les produits de la mer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les produits de la mer sont naturellement riches en oméga 3, et en plus, dans la très grande majorité des cas, c'est des produits sauvages. Si on prend si on prend des poissons d'élevage, il y en a aussi, mais en moins grande quantité. On pourra en trouver aussi en théorie des oméga 3 dans la viande, par exemple. À condition que la viande soit issue d'animaux qui aient mangé leur alimentation physiologique, c'est-à-dire de l'herbe, en fait, pour la plupart des cas. Or, aujourd'hui, c'est quasiment le plus cas. Si tu prends une vache, par exemple, qu'est-ce qu'elle a mangé toute sa vie ? Du foin, enfin, des lancillages de maïs. Bref, une alimentation qui va être optimisée pour la faire grossir, parce qu'en fait, les animaux sont vendus au poids. Donc, plus il est gros, plus il vaut cher, en fait. Donc, l'herbe, c'est trop diététique pour un animal, en fait, paradoxalement. Donc, en agroalimentaire, en fait, on te donne une alimentation qui va être très optimisée pour te faire grossir, mais du coup très aussi inflammatoire. Donc aujourd'hui, les meilleures sources d'oméga 3, ça reste les produits de la mer. Effectivement, il faudra en manger 2-3 fois par semaine. De bonne qualité, sauvage. Après, il y a le problème des métaux lourds qu'on trouve dans la mer. Donc c'est pas si simple, en fait. Et puis effectivement, comme tu disais, les oméga 3 n'ont de sens que quand on les met en comparaison avec les oméga 6. Et aujourd'hui, les oméga 6, on en consomme en très grande quantité, en fait. C'est impossible d'être en carence d'oméga 6. Donc en fait, l'idée, ça va être d'avoir une base d'oméga 3 naturelle et derrière de venir compenser tout ce qui manque par les compléments alimentaires. Parce que c'est quasiment impossible d'avoir un bon ratio oméga 3 oméga 6 par juste alimentation. Pour te donner un exemple, moi j'ai fait mesurer mon ratio oméga 3 oméga 6 récemment là. Donc il est de 3 pour 1, c'est-à-dire 3 oméga 6 pour 1 oméga 3, ce qui est un très bon ratio oméga 6 oméga 3, mais il est pas de 1 pour 1 non plus, quoi, en fait. Alors que je fais hyper gaffe à mon alimentation, je me complémente en oméga 3. Et voilà. Donc j'imagine quelqu'un qui ne se complémente pas, il peut avoir un ratio qui soit très vite mauvais, en fait, quoi. Et attention aussi aux personnes qui mangent très peu de produits animaux. Parce que comme tu disais tout à l'heure, les oméga 3, c'est avant tout EPA, DHA. Les oméga 3, les biodisponibles.
Et de la mer en plus.
Voilà. Après, t'as les oméga 3 végétaux, on appelle les ALA, qui sont bien aussi. Le corps en a besoin, mais clairement, c'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Parce qu'en fait, ces oméga 3 ALA, le corps va devoir les convertir en EPA, DHA. Et en fait, cette conversion dans le corps, elle est très mauvaise. En fait, nous, les êtres humains, on a une très mauvaise conversion ALA vers EPA, DHA. Mmh. Donc, les gens qui me disent, moi, je mange des graines de chia ou des graines de lin pour mes oméga 3.
Les huiles aussi. Huiles riches en oméga 3.
C'est bien. Mais clairement, c'est pas ça qui va faire la différence, en fait. C'est pas en mangeant un peu de graines de chia à l'occasion que tu vas avoir un très bon ratio oméga 6 oméga 3. Donc en fait, tout ça mis dans l'équation fait que la complémentation en oméga 3, elle est quasiment obligatoire pour tout le monde, en fait.
Chez nous, on a du coup de l'oméga 3 des algues. Oui. Donc ça permet de l'avoir de PA, DHA, mais sans forcément, on rajoute de l'ALA, mais sans avoir ce problème de conversion, par exemple.
D'accord.
Et c'est vrai que par rapport aux métaux lourds, aux pesticides, il y en a moins concentrés dans les algues que dans les poissons. Mais il faut quand même regarder ce qu'on appelle l'indice
Total oxydation.
L'indice de fraîcheur, tout à fait. Et plus il est bas, mieux c'est.
Et notamment, que ce soit oxydé, justement, c'est ça ?
Tout à fait.
Dans une petite parenthèse sur le sujet, parce que c'est extrêmement intéressant. On pourra lire pas mal d'études sur Internet qui disent que les oméga 3, en fait, sont problématiques. On a des études qui disent, par exemple, que les oméga 3 provoquent plus de problèmes cardiovasculaires qu'autre chose. On en trouve, Et à chaque fois, des gens m'en envoient. Ils disent, t'as vu, en fait, Wilfried, tu dis des conneries, regarde cette dernière étude. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des études sont faites aux États-Unis. Aux États-Unis, en fait, ils n'ont pas cet indice totox. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. D'indicateurs de fraîcheur. Et en fait, beaucoup d'études ont justement démontré que le niveau d'oxydation des oméga 3 aux États-Unis est relativement mauvais. Ce qui fait que lorsqu'ils font des études sur les oméga 3, ils donnent à leurs cobayes, aux gens qui prennent des oméga 3 qui sont la plupart du temps oxydés. Et un oméga 3 qui est oxydé, il est plus délétère que bénéfique. Donc c'est-à-dire en fait que tu penses donner à ton corps un produit anti-inflammatoire, mais en fait, tu vas donner à ton corps un produit pro-inflammatoire. Donc, c'est normal, en fait, que derrière, l'étude dise, en fait, t'as vu, en fait, les oméga 3, ça pose des problèmes de santé. Donc, c'est pour ça que le Totox, nous, on a la chance, on a ça, d'avoir ça en France. Il faut vraiment faire attention à ça et prendre le Totox le plus bas possible, quoi. Vraiment prendre inférieur à 10, c'est hyper important. Et pour aussi conserver cet indice totox, parce que beaucoup de gens regardent sur l'emballage, mais après ils le laissent sur leur plan de travail au soleil ou à côté du chauffage. Ça se conserve au frigo, les oméga 3, parce
même
que c'est Pardon ?
Même au congélateur.
Voilà, au froid, parce que c'est extrêmement sensible à l'oxydation et à la chaleur.
La vitamine D aussi.
Ouais. Aussi. Donc attention à la conservation des oméga 3, c'est vraiment hyper important.
Merci pour ce petit reminder. Vous voulez rajouter encore quelque chose sur la micronutrition ou...
Tellement à dire, mais c'est vrai que y a tellement à dire.
Vous avez mentionné le Q10.
Oui, super important.
C'est plutôt inflammation ou stress oxydatif, du coup, le Q10?
Le Q10, c'est pour la santé de la mitochondrie en grande partie, c'est-à-dire en fait que ça va venir dans le processus de santé de la mitochondrie. Et en fait, aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'effectivement, comme tu dis tout à l'heure, ça décroît avec le temps, c'est-à-dire que plus tu vis, plus ton taux de Q10, il descend. C'est relativement dur à trouver dans l'alimentation, t'en as pas tant que ça. En plus, effectivement, les gens qui prennent des statines, par exemple, ont tendance à avoir un niveau de Q10 qui sont encore plus bas. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes avec les statines ont des douleurs, ont des problèmes, genre une tonne d'effets secondaires pas cool. Donc là aussi, la Q10, je dirais que ça pourrait être dans le top 5, en vrai, des compléments hyper intéressants à prendre, notamment quand on vieillit. Quand t'as 20 ans, ça, quand t'as pas trop de sens en fait d'en prendre, mais par contre, je dirais vers 35, 40 ans, ça fait vraiment sens de commencer à en prendre pour assurer justement une bonne santé des mitochondries, parce que les mitochondries, en fait, c'est vraiment une des bases de la santé cellulaire. C'est-à-dire que tu peux pas avoir des cellules en bonne santé si ta mitochondrie n'est pas de base correctement oxygénée, qu'elle ne fermente pas, etc., etc. Donc, la Q10 va venir pour à ce niveau-là l'aider. Ouais.
La mitochondrie, c'est la santé, quoi. Enfin, c'est toutes nos cellules ont des milliards de mitochondries et il faut prendre soin de ces mitochondries. Et la CoQ10, la coenzyme CoQ10 va l'aider également beaucoup chez les sportifs. C'est ça que je voulais ajouter avec ce que disait Wilfried pour les sportifs, très important. Moi, souvent, même en bilan bio, je fais vraiment le récap de la CoQ10 et je vois bien que chez les sportifs, il y a une diminution aussi exponentielle par rapport aux personnes, selon l'âge aussi, comme tu disais. Mais donc, être vigilant à cette CoQ10, parce que c'est l'énergie cellulaire.
Merci pour tout ça. En tout cas, on a mentionné plein de petites pépites qu'on peut retrouver sur sunday.fr. Donc, pour les gens qui nous écoutent, je vous glisse un petit code pour bénéficier de moins 10% sur votre prochaine commande. Il faut taper épisode 28 et c'est valable jusqu'au 15 mai. Donc, profitez-en. Je reviens sur mes stratégies parce qu'il m'en reste encore deux. La prochaine, je voulais te la poser à toi, Wilfried, parce que tu as déjà mentionné pas mal de piliers de la santé. Une des stratégies, c'est d'avoir un mode de vie équilibré, tout simplement, pour que ce soit équilibré, justement, pour l'inflammation, pour le stress oxydatif. Donc, tu avais mentionné le stress... Oui, on l'a mentionné, stress. Le sommeil. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre
L'activité physique. Hyper important. Paradoxalement, en fait, l'activité physique, quand tu commences à faire du sport, tu vas augmenter ton niveau inflammatoire. Parce que justement, ça génère une sorte de stress, toi, on en parlait tout à l'heure. Mais derrière, par contre, tu auras un effet contre-mesure qui sera anti-inflammatoire. Et je dirais, un élément qui est sous-estimé de la santé inflammatoire, c'est le muscle. Le muscle extrêmement important pour la santé en général, pour vivre en bonne santé, lutter contre la sarcopénie, donc la fonte musculaire liée à l'âge, etc. Mais si on regarde le côté thématique de ce podcast, donc, qui est le côté anti-inflammatoire, les muscles vont sécréter des molécules qu'on appelle les myokines, qui sont anti-inflammatoires. Donc en fait, le muscle est un organe de longévité, de bonne santé et anti-inflammatoire. Donc il faut créer du muscle. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce matin, quand je prenais mon café justement dans un petit café parisien, j'avais le Parisien, le journal qui était posé sur le comptoir. Et j'ai pris une photo parce que la une, c'était de plus en plus de chutes chez les personnes âgées.
Oui.
Et c'est vrai que ça peut être catastrophique, une personne âgée qui chute. C'est en fait un cercle vicieux parce que du coup, elle aura peur de bouger par la suite, donc elle va encore moins bouger. Et comme elle va moins bouger, du coup, elle va accentuer en fait son vieillissement et ses problèmes métaboliques, etc. Et en fait, je dirais qu'il y a une solution toute bête pour éviter ça, c'est le renforcement musculaire. Mmh. Le renforcement musculaire, ça peut sembler totalement sous-coté et presque, c'est quoi le rapport avec le côté inflammatoire? Mais pourtant, c'est une base essentielle. En faisant du renforcement musculaire, tu vas non seulement protéger ton corps contre les chutes, parce qu'un corps qui est musclé, il est beaucoup plus enclin à supporter justement les chutes. Ouais, c'est les muscles qui sont une sorte d'amortisseur d'airbag sur ton corps. Ils protègent tes os aussi, parce qu'en fait, les muscles, ils exercent une pression sur tes os qui fait que tes os restent en meilleure santé. Donc, ça évite de perdre tes os avec l'âge, en fait. Et puis, tout bêtement, ça sécrète aussi plein de molécules qui sont bénéfiques pour la santé, comme justement j'expliquais les myokines. Donc, il faut faire du renforcement toute sa vie sans jamais s'arrêter. Donc, ça implique renforcement, ça peut être juste au poids de corps, travailler, ça peut être du yoga, par exemple, la base de la base. Et puis, pas hésiter aussi, des fois, à faire du renforcement avec des charges, en fait, pour pouvoir aller chercher des muscles un peu plus profonds, faire des mouvements en pleine amplitude. Et puis, comme c'est peut-être compliqué pour beaucoup de personnes, se faire aider par un coach pour le faire proprement, sans faire d'erreur, parce que dès que tu mets de la charge, il y a mille une façons de se blesser. Donc, il faut, pour moi, mettre ça dans les top priorités de la santé pour rester en bonne santé longtemps.
Ça doit être sur ordonnance. Franchement, ça doit être sur ordonnance parce que j'ai même moi des patients qui arrivent au cabinet, mais j'ai cet âge-là, je vais pas pouvoir commencer à faire un peu du renfort. Mais bien sûr, ils ont peur de ça en fait. Il faut vraiment les accompagner, même beaucoup de femmes qui arrivent à la ménopause, qui n'ont jamais trop bougé ou un peu d'activité physique par-ci par-là. Mais quand je parle de musculation, elles me regardent en disant mais voilà, il faut que je prenne des charges. Mais oui, il faut que vous preniez des charges. Mais je pense qu'il faut vraiment aussi cette un échange et de la prévention santé en ce sens. Et plus on bouge, mieux on se portera. Et plus on est au poids de corps, déjà, c'est bien. Et pas trop mettre la pression aussi avec les poids, mais c'est super important, quoi. Aujourd'hui, c'est tout au long de sa vie. On voit beaucoup d'ostéopénie, d'ostéoporose. Et c'est, je pense, ce qui mettait en avant. Je reviens sur la réparation aussi musculaire. La astaxanthine. C'est une des... Mais la astaxanthine, c'est pour la réparation musculaire, une meilleure récupération. C'est vraiment un super antioxydant aussi, que j'avais omis. Mais encore une fois, l'ostéopénie, l'ostéoporose, c'est en prévention. Plus on avance en âge, que ça soit chez l'homme ou chez la femme aussi, on a cette consommation moindre, malheureusement, de protéines animales ou de protéines végétales, donc moins d'acides aminés essentiels. Et c'est en ce sens où parfois, d'ailleurs chez Sunday Natural, je prescris des acides aminés essentiels parce qu'il y a beaucoup de carences aussi en ce sens qui vont avoir un impact sur nos fibres musculaires et donc sur notre capacité à être mieux au niveau osseux. Et donc la vitamine D, la vitamine K2 pour éviter aussi la calcification des vaisseaux sanguins. Mais c'est important d'en parler. Et je vais aller chercher ce journal du Parisien parce que pour une fois qu'il donne des... Voilà, mais on parle souvent des seniors, mais aussi il y a aussi 40-50 ans.
Et tu parlais de la ménopause, et pour moi, c'est extrêmement important aussi de prévenir les femmes qu'autour de la ménopause, il faut faire d'autant plus attention à sa santé, notamment sur le côté inflammatoire, parce que l'heure de la ménopause nous coûte à une chute des oestrogènes. Or, les oestrogènes chez la femme sont très anti-inflammatoires. Donc, en vrai, une femme, lorsqu'elle arrive dans la ménopause, va avoir naturellement son niveau inflammatoire qui va augmenter, parce que cette chute, du coup, le corps le prend en pleine face, en fait, quoi. Je remarque en général que les femmes qui prennent soin de leur santé, donc sur la partie alimentation, activité physique, gestion du mental, etc., subissent moins les symptômes de la ménopause que les femmes, justement, qui ne font rien, entre guillemets, quoi. Donc la preuve qu'en prenant soin de sa santé et en travaillant sur un style de vie anti-inflammatoire, eh bien, la ménopause, en fait, elle peut passer presque comme une leste à la poste, en fait, quoi.
Je voulais rebondir un peu sur les muscles et même aussi cette période-là parce qu'on a fait un épisode, ça s'appelle « La force et la longévité », où justement, on prenait aussi des exemples que moi, j'ai vus sur Instagram de femmes qui se sont mises à faire du renforcement musculaire et puis de la musculation à 60 ans, jusqu'à 80 ans. Pour justement être en meilleure santé. Elles n'ont jamais été en meilleure santé à cet âge-là qu'avant, quoi. Donc, on peut vraiment commencer à tout âge.
Il n'y a pas d'âge pour commencer. Il n'est jamais trop tard. Ouais. Et le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Et le deuxième moment, c'est... Enfin, c'était hier. Mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant.
C'est maintenant.
J'ai loupé ma phrase.
Hier. Mais on s'est compris. C'est pas grave. Voilà. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas d'âge pour commencer.
Il n'y a pas d'hier. Il n'y a pas de demain. C'est tout de suite, voilà. En fait. Ouais. Ça, c'est le meilleur jour.
Et la dernière stratégie, c'est le drainage ou le soutien du système lymphatique. Et du coup, je me tourne vers toi, vu que tu es praticienne.
Oui. Alors, c'est vrai que moi, je réalise aussi du drainage lymphatique. Et souvent, on parle beaucoup de détoxification, libérer les toxines de son corps. Alors que voilà, le corps s'est très bien travaillé aussi par lui-même. Lors du sommeil, c'est là où le corps se répare. Mais par contre, on entend peu parler de ce système lymphatique qui est la lymphe qui circule donc tout au long de notre corps, dans nos tissus. En fait, il est entre nos cellules et le système lymphatique est là pour... il épure notre corps, il élimine les cellules usées, il va éliminer les toxines, il va éliminer aussi l'excès de liquide qu'on voit souvent chez toute personne, pas que chez les femmes. Et en fait, cette lymphe, elle a besoin de mouvement. Donc, elle a besoin d'activité physique, elle a besoin d'hydratation, elle a besoin également d'être activée. En fait, encore une fois, oui, j'ai dit le mouvement, mais l'un dans l'autre, il faut vraiment que les ganglions lymphatiques vont être là pour filtrer, en fait, et éliminer les toxines. Et pour ça, c'est intéressant d'avoir le mouvement, mais également des drainages, l'hydratation, et puis du brossage à sec, Et aussi, pourquoi pas, plutôt des jets d'eau froide le matin. Aussi, ça crée un petit stress et ça va faire circuler la lymphe. Et ça, c'est très bien. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais des leviers. T'as le sommeil, l'activité physique, mais aussi pour moi, l'exposition au froid. Et c'est comme le jeûne, sont des mécanismes vraiment de petit stress à donner à son corps. Alors là, on en est loin selon là où on en est dans notre mode de vie, mais l'exposition au froid, le jeûne, c'est vraiment intéressant, et notamment pour ce fameux système lymphatique.
Du coup, en quoi ça avait un lien avec l'inflammation ou le stress oxydatif ?
Alors, merci d'y revenir, parce que c'est notre sujet du podcast en même temps. Mais pour le coup, c'est vrai que ça va activer aussi, ça va améliorer le système immunitaire. Donc, et le fait d'éliminer en fait les déchets aussi de l'organisme va amoindrir l'inflammation dans laquelle nous sommes, parce que nous sommes, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, inflammés dans une moindre mesure. Et donc d'activer ce système lymphatique, d'éliminer les toxines, va permettre au corps aussi de se régénérer. Donc c'est bien aussi, parfois on donne ce cas où il faut apporter de l'extérieur le moins de toxines possible, mais on en apporte tout de même, puisque le corps en fabrique aussi par lui-même pour s'adapter au monde dans lequel on évolue. Donc dans ces cas-là, pour rééquilibrer le fait d'éliminer au mieux avec la lymphe. Donc voilà, mais ça c'est, enfin je sais pas si je réponds bien à la question, mais dans une moindre mesure aussi, il faut savoir que on ne fait pas de drainage lymphatique quand on est malade, parce que en fait ça va activer le système immunitaire, le fait de drainer sa lymphe, et donc amoindrir donc l'inflammation.
Toi t'en fais, Wilfried ?
Pas du tout.
Ah oui. Moi, tout à l'heure, j'ai.
Mais par contre, je fais beaucoup de sport, donc est-ce que c'est pas une sorte de drainage naturel, du coup ?
De drainage naturel, l'hydratation, drainage naturel. En fait, c'est pas le sport en tant que tel, c'est le mouvement. Tu vois, même la marche, le fait d'être là assis, bon, bah voilà, c'est un rendez-vous de 2 heures ensemble, mais c'est vrai qu'on met à mal, moi en plus, je croise de temps en temps un peu mes jambes, mais on met à mal notre système lymphatique. Donc, dans ces cas-là, après, aller marcher, par exemple, en allant manger ou quoi, ça va être important. Mais le mouvement en ce sens, c'est l'hydratation. Des petits drainages, ça fait vachement de bien. Ça fait beaucoup de bien au corps, parce qu'on va, pomper en fait les ganglions lymphatiques, et donc on va réactiver des systèmes en fait, et une meilleure élimination des toxines et des cellules usées. Donc je t'invite sinon moi j'ai des coordonnées aussi d'hommes qui drainent les hommes, parce que les hommes souvent, il y a beaucoup de muscles, tu dois avoir beaucoup de muscles, mais du coup il faut un peu de force. Mais moi j'aime beaucoup mes patientes, je les dirige vraiment, et puis ça fait du bien parce qu'il y a un rapport au corps aussi. Et des fois quand on est inflammé, on n'est pas bien, on sent lourd, on est douloureux, un petit peu partout, et ben du coup il y a un rapport au corps que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je me suis expertisée aussi en ce sens, pour accompagner mes patients.
C'est qui le meilleur profil, du coup, à qui on peut recommander le drainage lymphatique?
Il n'y a pas de profil aussi type, mais la femme, l'homme, ça peut être sportif et non sportif, douloureux ou pas douloureux, donc mais tous en fait. Parce que après, à partir de 16 ans, parce que souvent on me demandait pour les enfants, parce qu'on réactive aussi, vraiment la lymphe, ça réactive des mécanismes, et notamment sur le sommeil. Je vois, j'ai des patientes, elles dorment beaucoup mieux quand je les draine, mais parce qu'elles se sont relâchées tout simplement. Et parfois on me demande chez les enfants, mais non, faut vraiment éviter, entre 16 et puis 80 ans, enfin 90 même, il y a pas d'âge. Mais c'est vrai que encore une fois, cette lymphe traverse les tissus, va permettre d'éliminer les toxines, et c'est de les éliminer mieux qu'à travers aussi, donc il y aura l'alimentation, mais aussi donc l'hydratation.
J'ai encore fait quelques recherches avec des experts qui mentionnent deux approches. Il y en a une qui s'appelle Redox et l'autre qui consiste à se concentrer sur NRF2. J'avoue que je n'ai pas cherché plus loin, parce que je me suis dit peut-être que vous allez pouvoir aller un peu plus dans le détail. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Est-ce que toi, tu veux commencer
La voie NRF2, en fait, c'est la voie anti-inflammatoire, en gros. Okay. Donc, tout ce qu'on a dit pendant ce podcast, ça active indirectement la voie anti-inflammatoire, donc l'alimentation, l'activité physique, un bon sommeil, une bonne gestion du mental. Et puis le redox, en fait, c'est l'équilibre justement oxydant-antioxydant. Puis en fait, un oxydant, en fait, l'opposé, c'est la réduction, en fait, en chimie. Donc on parle d'effet redox, réduction-oxydation. Mais voilà, en fait, en gros, c'est ça. Tout ce qu'on a dit, en fait, active, favorise l'équilibre redox et favorise l'activation de la voie NRF2.
Ouais.
Ok, oui. Donc au final, c'est des mots compliqués, j'espère. Voilà.
Enfin, c'est pas des mots compliqués, mais dans le sens où oui, ce sont des activateurs en fait d'enzymes antioxydantes, donc ça nous protège, et c'est ce que tu disais. En fait, c'est marrant parce qu'on revient au début du podcast, mais c'est génial parce que c'est le corps est tellement bien fait, et oui, il y a des termes redox, NRF2, mais c'est aussi, on n'a pas parlé de la détoxification, mais ça active aussi NRF2, c'est des enzymes antioxydantes et aussi de détoxification en fait de l'organisme cellulaire, la détox cellulaire.
Bon, en tout cas, on a donné toutes les pistes du coup pour agir proactivement sur ces mécanismes-là. Est-ce qu'il y a encore des nuances à apporter ? Vous avez dit personnalisation. D'autres choses, d'autres questions à se poser avant de se lancer
Du coup, moi, si je devais rajouter un petit point, ce serait du coup la gestion du sommeil. On n'a pas trop parlé. Et pour moi, c'est la chose sur laquelle il faut travailler en premier, paradoxalement. Parce que sur les gens à qui je travaille, très souvent, le sommeil est négligé dans la vie. C'est-à-dire qu'on se couche tard, on se dit en fait, en gros, je rentre du travail en fait, et je n'ai pas eu mon moment à moi, donc je reste le plus tard possible devant les écrans, etc. Et en vrai, ça, c'est aussi très délétère pour la santé et pour le côté inflammatoire parce que, comme on disait tout à l'heure, le sommeil est avant tout un environnement pour réparer le corps. Donc, plus tu vas passer du temps en fait, hors de ton lit, moins ton corps il va bien se réparer. En fait, quoi. Donc, pour moi, c'est hyper important de chouchouter son sommeil, de ne pas le négliger et de même faire en sorte qu'il soit le plus optimal possible, de travailler dessus de façon proactive. C'est-à-dire que pourquoi pas, tu vois, moi je monitore mon sommeil avec ma montre, par exemple, j'essaie d'optimiser pas mal de choses pour maximiser un peu le sommeil profond. Et en fait, globalement, plus tu travailles là-dessus, plus tu auras un effet positif sur ta santé. Parce qu'en fait, le sommeil, s'il n'est pas bon, tu n'auras pas envie de bien manger, tu n'auras pas envie d'aller faire du sport, tu n'auras pas envie de prendre soin de toi. Tu vois, quand tu as passé une mauvaise nuit, le lendemain tu te réveilles, est-ce que tu as envie d'aller courir ? Non. Est-ce que tu as envie de bien manger ? Non. En général, les gens qui dorment mal sont beaucoup plus attirés vers la mauvaise nourriture que vers la bonne nourriture. En fait, et là, on se met dans un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'en fait, tu dors mal, donc tu manges mal. Comme tu manges mal, tu es à niveau inflammatoire. Comme tu es inflammatoire, du coup, tu es fatigué. Comme tu es fatigué, tu vois, etc. etc.
Voilà.
Et inversement, en fait, quand tu rentres dans ce cercle vertueux de commencer par prendre soin de ton sommeil, ensuite, j'ai bien mangé. Donc, tu vois, c'est une sorte de cohérence qui se met en route. C'est-à-dire que tu vas être aligné avec tes valeurs et en gros, tout va bien se mettre en place et ta santé va s'améliorer. Mais ouais, le sommeil, c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé, qui est sous-coté et qui est sur lequel il faut travailler. Comment on fait pour travailler sur son sommeil ?
Ouais, c'est quoi
Moi, je dirais déjà essayer de mimer la nature le plus possible. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu vois, je vois beaucoup de gens le soir, c'est à Versailles chez eux. C'est-à-dire que tu as les lumières dans tous les sens. Et comment tu veux avoir envie de dormir quand tu as des lumières dans la tronche, mais des vraies lumières, toi. Moi, chez moi, le soir, c'est lumière tamisée, mais très tamisée, quoi. Avec des petites bougies, pourquoi pas, une petite lumière orangée. Parce que le soir, quand elle se couche, c'est quoi les lumières ? C'est l'orange, en gros. Donc, il faut essayer de mimer ça parce que le cerveau, il sait, en gros, que quand les lumières deviennent orange, pour simplifier, ça veut dire qu'il faut aller se coucher, en gros. Et en fait, paradoxalement aussi, le sommeil se prépare dès le matin. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, il faut t'exposer au soleil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le soir, la mélatonine, donc l'hormone du sommeil, elle est sécrétée le soir, mais elle est créée le matin. Quand tu t'exposes au soleil, en fait, ta mélatonine, elle se dit en gros, ton corps te dit en gros, la nuit est finie, donc maintenant on sécrète le cortisol, mais il va falloir recréer la mélatonine pour la nuit en fait. Donc c'est le matin. Le problème, c'est que si jamais tu sors de ton lit, tu restes chez toi, tu montes dans ta voiture ou tu prends le métro, tu vas dans un bureau et tu rentres chez toi ensuite et que t'as pas vu le soleil de la journée, en fait, ta mélatonine, c'est quasiment pas créé en fait, quoi. Donc quand tu vas être aux alentours de l'heure de te coucher, c'est-à-dire tu vas dire c'est bizarre, je suis pas fatigué. Bah oui, parce que t'as pas de mélatonine. Du coup, les gens ils vont se complémenter à mélatonine, alors qu'en fait, il n'a pas besoin, parce que ton corps a tout ce qu'il faut. Mais encore faut-il prendre soin de lui. Donc, les gens vont me dire, ok, mais moi, je n'ai pas de soleil, etc. Tu peux déjà faire une petite séance avec de luminothérapie. Tu as des lampes, en fait, qui miment la lumière du soleil du matin. Et par exemple, tu peux prendre ton petit déjeuner et tu mets devant toi une lampe de luminothérapie pour déjà t'exposer, tu vois. C'est artificiel, mais c'est mieux que rien.
Ouais. C'est des bonnes ondes, c'est des bonnes fréquences de toute manière. Ouais.
Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel et qu'il faut travailler absolument. Quoi. Après, ça passe par faire l'activité physique, parce que quand tu bouges, tu es plus fatigué le soir, logique. Bien manger, optimiser son alimentation le soir. Si tu manges trop lourd le soir,
Et trop paradoxe. Tard aussi.
Excuse-moi. Trop tard, voilà.
Trop tard. Parfois, on voit beaucoup de monde qui mange beaucoup trop tard.
Enfin, c'est quoi, trop tard?
Trop tard, c'est 21h, 21h30, 20h30. Et c'est dans notre vie moderne, quoi, c'est sûr. Mais vas-y, je te continue. Oh, et puis, je suis désolée, je t'ai coupé. Mais c'est vrai que c'est vraiment plus on mange tôt, plus on soupe. En fait, c'est vrai que j'ai des patients qui ils me parlent pas de dîner, ils parlent de souper. Et ils soupent, il est 18h, 18h30. Et moi, c'est ce que j'essaye de mettre aussi en place dans ma vie de famille. C'est avec les enfants. On évite même limite le goûter de 5h quand ils sortent à l'école. Mais je préfère dire, bah là, on boit un grand verre d'eau, on va faire les devoirs. Et puis à 18h, on va dîner. Et vaut mieux dîner à 18h que dîner à 21h30 et qui va léser en tout cas nos biorhythmes, parce que oui, nos biorhythmes sont complètement déréglés aujourd'hui. On va se coucher beaucoup trop tard, comme disait Wilfried. Et puis aussi, il y a moins de lumière naturelle et que même s'il y a des nuages, même s'il pleut, on a besoin d'être dehors, de vivre dehors. C'est le propre de l'homme de prendre la lumière naturelle. Alors, il y a aussi des écrans de luminothérapie, mais il y a aussi des luminettes que l'on peut... moi, j'ai investi dedans depuis 5 ans. Et entre octobre et mars, moi, j'ai mes petites luminettes. Enfin, je les mets même là en ce moment parce que il fait gris et qu'il fait nuit, il fait jour vers 7h30. La lumière naturelle, l'aération aussi de ces lieux, super important pour éliminer. Mais le sommeil, oui, c'est là où le cerveau fait son grand ménage. C'est là où on se répare et on se régénère et nos biorhythmes sont complètement mis à l'envers aujourd'hui. Et il faut, en fait, c'est là qu'il faut travailler. Et tu parlais de mélatonine. La mélatonine aussi, c'est pas que l'hormone du sommeil, c'est un grand antioxydant. J'aurais dû le mettre dans ma liste aussi. C'est un grand antioxydant. Et la mélatonine, en fait, elle est. Il y a avant la mélatonine, il y a des neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine, la mélatonine. En fait, c'est une cascade de neurotransmetteurs qui, dès le matin, d'où le premier geste de matin devrait être de se mettre, enfin voilà, à la lumière du jour, d'être dehors, même d'aller marcher 10 minutes à la lumière du jour, c'est super important, ou la luminothérapie, comme on disait. Et en fait, ça va, le petit déjeuner avec des œufs qui amènent, par exemple, de aide-moi Wilfried, de la tyrosine, je commence à être en hypoglycémie aussi, hein. De la tyrosine, donc cette tyrosine, c'est un précurseur de la dopamine, qui est un neurotransmetteur qui va permettre aussi d'aller donc vers la sérotonine vers 16-17 heures avec le tryptophane, et de retrouver donc notre mélatonine. Mais c'est vraiment des petits leviers. Après, il ne faut pas noyer aussi les personnes qu'on accompagne, ni les patients. Il faut leur faire savoir aussi, leur faire construire leur journée. Mais partir à partir, le socle, c'est vraiment le sommeil. Tu as tout à fait raison. Ce n'est pas que l'alimentation.
En tout cas, tout ce que vous avez dit, c'est des choses que j'ai déjà entendues dans tous les épisodes. Donc, ça me rassure aussi de savoir que c'est des petites choses qu'on ne fait que rappeler, qui sont peut-être banales.
C'est de bon sens.
Voilà.
Mais après, rappeler, c'est bien, mais appliquer, c'est mieux.
Oui, c'est
que des fois, les gens, ils ont besoin d'entendre ça peut-être 100 fois avant de se dire, bon, là, forcément, il y a, si tout le monde le dit, c'est qu'il y a bien une raison et je vais mettre en pratique. Parce que le problème, c'est que aujourd'hui, on n'a pas un manque d'information. En fait, l'information, elle est totalement disponible en très grande quantité. C'est les gens, ils ont un manque d'application, en fait, quoi. Et changer les habitudes, c'est souvent le plus compliqué. Donc, on est là aussi pour ça, pour les aider, quoi.
Ouais, tout à fait.
En tout cas, j'arrive à ma dernière question. Et la dernière question, c'était finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir sur le stress oxydatif et l'inflammation ? C'est vraiment essayer de résumer ce qu'on a dit là pendant 1h30 pour que ça reste dans notre tête.
Moi, je dirais qu'il faut voir la santé comme une chaise qui a quatre pieds, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil et le mental. Il faut idéalement travailler sur ces quatre pieds, parce que si quelqu'un va mettre beaucoup d'énergie sur son alimentation, comme on expliquait, en mangeant des antioxydants, donc une alimentation qui est colorée, en se complémentant en oméga 3, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais si tu as un pilier à côté qui est cassé, tu vois, qui n'est pas en bonne santé, comme le sommeil, qu'on vient de dire à l'instant, en fait, c'est bien, tu as fait un truc pour ta santé, mais elle n'est pas optimale. Et je dirais que voilà, en travaillant sur ces quatre pilier de la santé, en fait, tu emmènes ta santé vers justement cette zone optimale et pas juste normale, en fait, quoi. Donc, ouais, je dirais qu'il faut essayer d'avoir une vue un peu complète de la santé, une vue holistique, justement, et de se rendre compte que y a plein de choses à faire, mais comme on disait, le but, c'est pas de tout faire en même temps, parce que c'est impossible et c'est même peut-être contre-productif. Une personne va avoir envie de se dire bah, y a trop de choses à faire, du coup je fais rien. Perdu pour perdu maintenant, laissons tomber, de toute façon on vit qu'une fois. Donc non, justement l'idée c'est de commencer par des petites choses qui amènent des résultats rapides, comme des petits changements sur le petit déjeuner, sur des petits hacks sur le sommeil, des petits hacks sur l'activité physique, et ensuite de rentrer justement dans ce cercle vertueux qu'on a évoqué, parce que bah, les petites choses positives vont se dire « Ah, putain, c'est assez cool, je pensais pas qu'il était possible d'inverser ce problème-là, du coup, c'est-à-dire que ça marche, donc je vais continuer. » Et ça, pour moi, c'est le plus important, c'est gagner des petites victoires et de continuer à les enchaîner de façon non-stop jusqu'à la fin de sa vie, quoi, parce que c'est un travail finalement permanent qui ne s'arrête jamais. Quoi.
Tout à fait. Très belle fin.
Tu veux rajouter? Il a bah, déjà dit beaucoup.
Oui, il a déjà dit beaucoup. Je ne veux pas faire de redites. Mais après, se dire que même si on est dans une inflammation, ça ne va pas dans un sens. C'est-à-dire qu'on peut reculer, on peut aller vers le mieux. Ce n'est pas une maladie, en fait, l'inflammation. Et qu'on peut aller beaucoup mieux en optimisant, encore une fois, le sommeil, la gestion du stress, l'alimentation et l'activité physique. Se faire accompagner pour personnaliser les conseils, c'est aussi super. Se faire accompagner, être entouré de personnes aussi qui nous tirent vers le haut, c'est important, quoi. Pour moi, c'est très important. Et encore une fois, c'est pas une maladie, l'inflammation. C'est quelque chose qui peut être éteinte.
Bah, merci à tous les deux. En tout cas, je me sens plus éclairée sur le sujet. Et même, je peux faire ma petite conclusion. Pour moi, bah, c'est de continuer à écouter le corps.
Oui, c'est ça.
Continuer à prendre soin de son hygiène de vie, c'est jamais terminé. Merci vraiment.
Merci en tout cas pour l'invitation.
C'était super. Merci beaucoup.
Je suis contente que vous ayez passé du bon temps aussi.
Ah oui,
tous les trois. Émilie, si les gens veulent aller plus loin et continuer à te retrouver, il y a toujours tes deux ouvrages.
Donc aux éditions Le Duc, c'est l'alimentation spéciale sportive. Il y a beaucoup de recettes aussi dedans.
Oui, j'ai vu à la fin, c'est quand même, conséquent. Mais même si on n'est pas forcément sportif, c'est...
Non, c'est quand on dit spéciale sportive, c'est vraiment tourné autour de la femme parce qu'il y a beaucoup de transitions de vie aussi. Mais c'est les sportifs de tous les jours, et les élites aussi. Mais j'ai parlé beaucoup de la santé féminine dans ce bouquin.
Et là, c'est plutôt micronutrition avec mon cahier des compléments alimentaires et aussi super ludique.
Très ludique, j'ai
adoré
le faire.
Et c'est assez court, donc c'est vraiment...
Il se transporte facilement, c'est sûr que par rapport au premier où il est un peu lourd, mais celui-là, il se met facilement dans une poche.
Et puis, t'es aussi sur Instagram sous ton nom complet.
Nutritionniste de Molly. Tout à fait, merci.
On mettra en tout cas dans la description. Wilfried, tu as aussi ton guide complet d'alimentation anti-inflammatoire. Toi aussi, tu as mis des recettes. Et c'est aussi ludique parce qu'il
y a des recettes, Et il y a aussi un challenge de 21 jours. C'est-à-dire que justement, comme on disait, c'est pas facile de démarrer. Donc là, pendant 21 jours, j'explique en fait quelles sont les petites tâches qu'on peut faire tous les jours pendant 3 semaines pour déjà se mettre dans un beau cercle vertueux. Donc voilà, des petites choses à faire quotidiennement pour faire des choses bien, et puis il y a des recettes, et l'avantage c'est que c'est un guide qui est complet. Donc c'est-à-dire que vous avez la partie théorique au début, expliquant ce qu'est l'inflammation, les problèmes sur la santé, et ensuite la partie qu'est-ce qu'on fait concrètement au quotidien. Voilà.
Et puis on veut aller aussi plus loin, il y a toujours ta chaîne YouTube BeMove et aussi tes réseaux sociaux.
Voilà.
En tout cas
BeMove.
Il y a plein de choses que tu peux nous donner sur la nutrition. T'en fais vraiment beaucoup des vidéos, donc si vous voulez chercher quelque chose de spécifique, je vous invite à y aller. Et moi, je rajoute encore une raison de plus pour aller lire la description. C'est le code promo que j'ai dit tout à l'heure, épisode 28, pour profiter de moins de 10% sur la prochaine commande. Et si j'ai rien oublié, c'est le temps de se dire au revoir. Et on se retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous avec Sun Naturel. À bientôt. Une question, c'est qu'est-ce que vous prenez, vous, comme complément alimentaire?
Moi, mes essentiels, c'est les oméga-3, beaucoup. Les oméga-3, pas la vitamine D, magnésium oméga-3 et un peu de PEA, qui est un anti-inflammatoire. Je ne sais pas si tu connais le PEA. C'est un anti-inflammatoire aussi qui est génial. Et selon mes douleurs, et aussi un peu de probiotiques pour mes intestins.
T'as dit pas la vitamine D ?
Non, parce que, alors oui, pourquoi j'ai dit pas la vitamine D? Parce que j'ai fait aussi un examen biologique, un bilan biologique, qui s'est avéré très très bien au niveau vitamine D. Donc, j'arrête ma vitamine D pour le moment. Donc, oméga 3, enfin, c'est de l'huile de foie de morue que je prends, parce que je suis aussi carencée en vitamine A. Donc, huile de foie de morue, je prends en complément alimentaire. Magnésium bisglycinate, j'en prends deux en matinée, deux en après-midi. Ouais.
Ah ouais.
Et par rapport à mon activité physique, à mon stress, à ma fatigabilité en ce moment. Et puis qu'est-ce que j'ai dit après? Je prends du PEA parce que j'ai un petit peu de douleur. Tu sais, j'ai fait d'ailleurs il y a 3 jours la DEXA-Scan. Et c'est une belle machine en fait qui permet de mesurer ta masse musculaire, ta masse graisseuse et ta densité osseuse aussi. Mais elle m'a fait que confirmer qu'il y a 2 ans, en fait, j'avais déjà fait une ostéodensitométrie. J'ai de l'ostéopénie et de l'ostéoporose. Et pourtant, je fais du sport. Alors que je fais du sport depuis mes... je suis une famille de sportifs. Et comme quoi, tu vois, je cours tout le temps, je fais du yoga, du pilates, et j'ai une déminéralisation osseuse. Donc là, je suis d'autant plus vigilante à ça. Et c'est à la suite je raconte un peu ma vie, mais de fractures de fatigue de la cheville que j'ai fait à 1 an d'écart. J'en ai fait 2. Et j'ai fait une ostéodensitométrie. Mais malgré mon jeune âge, je suis déjà en périménopause. Et bref, il y a tout un cheminement, donc je suis ma meilleure patiente, c'est moi, c'est incroyable, donc oui, tu vois, et même si franchement moi j'aime bien manger, j'aime manger anti-inflammatoire, je me nourris aussi de ton bouquin, Wilfried, je me souviens, j'étais venue le chercher, tu te souviens ou pas, à la FNAC, mais malgré, voilà, et j'essaye d'être plus en plus sans faire une focalisation, mais je pense que moi, mon souci, c'est plutôt la gestion du stress par rapport à ma vie de famille.
Le magnésium.
D'où le magnésium, de matin, de midi, mais après, ça dépend aussi combien il y en a dans chaque gélule, tu vois. Mais voilà, pour couper, c'est mon magnésium, mes oméga 3, enfin mon huile de foie de morue et un peu de PEA, qui est un anti-inflammatoire naturel que je recommande beaucoup. Et donc, pour mes petites douleurs et être vigilante aussi sur des probiotiques spécifiques pour mes os. Donc voilà, pour mes petits os. Oui.
Toi, c'est quoi ta liste de choses que tu mets dans ton sac?
Alors, quand je pars en voyage, en général, j'emmène pas trop les compléments alimentaires. Pareil. C'est plutôt à la maison, on va dire. Ouais. Mais sinon, à la maison, donc la base aussi, oméga 3, vitamine D, magnésium. Ça, c'est le trio, totalement d'accord avec toi, Émilie. Ensuite, y a les petits bonus. Donc moi, je prends un multivitaminé 1 à 2 fois par semaine, juste pour refaire les niveaux. Voilà. Q10, hyper important, on en a parlé. Je prends aussi l'ashwagandha pour le stress, parce que je suis quelqu'un aussi potentiellement un peu stressé. Mmh. Et puis, après, pour le sport, je prends la créatine. Créatine qui est très bon, et pareil, on a pu en parler, mais on n'aura pas le temps. Excellent pour les muscles et aussi pour le cerveau, d'ailleurs. On manque tous de créatine.
Pour l'énergie, hein, beaucoup, ouais.
Je prends la glycine aussi. Et puis, du collagène.
Glycine pour le sommeil.
Glycine pour un peu tout, en fait, ouais, parce que c'est un précurseur de glutathion aussi, donc un antioxydant important. Et puis, c'est aussi, c'est dans la molécule, en fait, de collagène aussi. Donc, la glycine, en fait, on en manque tous. Le truc, c'est que ça vient des produits animaux, très principalement. Et aujourd'hui, ça que les produits animaux, on en mange de moins en moins, en fait. Donc, faut compenser beaucoup de micronutriments qui manquent des produits animaux via, malheureusement, les compléments alimentaires. Donc, pour moi, la glycine, c'est important.
Et collagène ?
Et collagène, parce que, pareil, on a tendance à en manquer, qu'il est facilement détruit, comme c'est la protéine la plus abondante du corps. C'est une protéine qui est très exposée au stress oxydatif, à l'inflammation. Donc, c'est pour aider le corps, en fait, à reconstruire ses propres stocks de collagène. Pareil, on peut lire pas mal d'études, en fait, qui disent que le collagène, en fait, c'est un peu bullshit, mais quand on sait vraiment comment ça marche, que quand on prend vraiment des peptides de collagène qui ont la bonne taille, et qu'on sait que les peptides sont pas digérés comme les protéines, et qu'en fait, elles vont vraiment au bon endroit, en fait, dans le corps, en fait, ça pose aucun problème, quoi. Donc, voilà, un peu, c'est ma base, on va dire.
Ok, en tout cas, c'était très extensif, mais j'aime bien justement savoir ce que vous prenez, vous, en tant qu'expert, même pour vous-même. Quoi.
Mais oui, complètement. J'ai juste une petite question. La vitamine D, comme tu as fait un bilan il n'y a pas longtemps, t'es pas...
Je suis dans la zone normale.
Mais t'es à 60
en fait. Alors, j'ai plus les valeurs chaleur en tête. Ouais. Mais j'étais pas fou, en fait, pour quelqu'un qui vit au soleil.
Oui, c'est ça, c'est pour ça.
Après, justement, il y a aussi le paradoxe, c'est que parfois, vivre trop au soleil, en fait, ton corps, il s'habitue. Donc, tu as une peau qui est un peu plus bronzée, donc la vitamine D, enfin, les rayons du soleil passent moins bien. On a un peu plus peur aussi, paradoxalement, puisque comme le soleil est un peu fort, on s'expose un peu moins. Puis, ouais, pour pas mal de raisons, je pense que ça s'explique aussi. Bah, la vitamine D, elle est plus consommée par le corps, etc. Donc, bref, ouais, je pense qu'il faut. Je me suis complémenté pour revenir dans une zone optimale, du coup.
Oui, d'accord. Ok.
On différencie beaucoup. Enfin, moi, je différencie les zones normales et optimales. Et la zone normale, en fait, souvent, elles sont mauvaises, en fait, parce qu'elles sont basées sur la population générale qui est globalement en mauvaise santé. Donc, moi, je travaille sur les valeurs optimales. Oui, et c'est pour ça que je me complémente à ce niveau-là. Santé,
Bah, merci beaucoup.
Mais merci à toi, Noémie. Et toi, tu prends des petits compléments?
Ah ouais, moi, j'en prends aussi. Je ne sais pas si je mettrai dans la vidéo, mais...
Allez, bah
non,
vas-y.
Mais c'est intéressant, tu sais. Mine de rien, t'interviews.
Ça pourrait être pour le...
Je trouve ça super qu'on puisse aussi t'interviewer dans ce sens.
Bonsoir, aujourd'hui nous recevons...
est-ce que t'en prends justement...
J'ai mon petit pilulier de voyage parce que j'étais malade la semaine dernière et du coup je prends le complément immunoactif de Sunday, donc qui me sert un peu de multivitamine là moment, du magnésium, bisglycinate bien sûr, de l'ashwagandha aussi, du collagène aussi. Là depuis qu'on a sorti notre nouveau collagène au cacao, et on a des petits sachets, on les met, et 500 Dalton et 80% de tripeptides, donc du coup c'est exactement ce qu'il faut pour pouvoir attraper.
Cacao.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de la vitamine C, du zinc aussi parce que j'étais malade, donc je remets encore un petit coup. Là pour dormir, parce que quand je suis en voyage j'ai du mal à dormir, etc.
Quand t'es pas chez toi.
De la L-théanine.
D'accord.
Donc ça, c'est ce que j'ai mis dans mon pilier de voyage. Ouais. Et puis après, j'ai aussi de l'astaxanthine quand j'ai besoin. Plutôt quand je manque de... quand je suis fatiguée.
Pas d'oméga 3
Quand je mange. Donc c'est chez moi, dans le frigo. Donc je ne le prends pas quand...
Après, c'est pas grave de ne pas prendre pendant une semaine. En fait.
Mais moi, j'aime bien faire des pauses.
Oui,
en
je
fait,
pense que c'est important de faire des pauses aussi. Ouais.
Quand je pars, j'évite... Enfin, j'en prends un ou deux. Mais parce que j'ai pas envie de... Puis c'est une charge... Enfin, voilà, c'est une...
Puis je pense que ça reste...
Charge mentale.
Ça reste bien de faire des pauses, en fait.
Moi, j'aime bien faire des pauses, ouais.
Et en fait, dedans, il y a de la vitamine D.
D'accord,
comme ça, je mets les deux en même temps.
Ouais, très bien.
Cool.